Vous écoutez RFI, Radio France Internationale, il est 7h30 à Paris, 5h30 en temps universel.
RFI Matin.
Et pour l'actualité africaine, on retrouve Xavier Besson. Bonjour Xavier.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Arrêté, jugé et condamné à la peine de mort hier dans l'est de la République démocratique du Congo. 25 militaires ont écopé de la peine capitale, notamment pour fuite devant l'ennemi, alors qu'entre l'armée congolaise et ses alliés et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, les combats continuent dans la province du Nord Kivu et font de l'est congolais l'un des endroits au monde où l'on compte le plus de déplacés, nous expliquera le coordonnateur humanitaire des Nations Unies en RDC. Dans ce journal également, le Tchad, après la révélation d'une enquête de la justice française visant le président tchadien sur des détournements de fonds présumés. La Banque mondiale qui a suspendu au début de la semaine ses décaissements en direction du Gabon après des impayés de la part de Libreville. Problème résolu, affirme depuis le gouvernement gabonais. Et puis vous entendrez Elsa Di Meo et Amélia Lacraffi pour les élections législatives françaises. Ce sont les deux finalistes de la 10e circonscription des Français de l'étranger, celle qui englobe les pays d'Afrique centrale et d'Afrique australe. C'est la deuxième condamnation du genre en l'espace de 2 mois en République démocratique du Congo. Hier, dans la province du Nord Kivu, 25 militaires, dont 2 capitaines, ont été condamnés à la peine de mort, notamment pour fuite devant l'ennemi, au terme d'une procédure en flagrance le jour même de leur arrestation. En mai dernier, ce sont 8 soldats, dont 5 officiers, qui subissaient le même sort, alors qu'au début de l'année, le gouvernement de Kinshasa a annoncé lever le moratoire en vigueur depuis 20 ans sur l'exécution de la peine capitale. À Goma, correspondance d'Héritier Baraka.
Les prévenus étaient au nombre des 31, dont 27 militaires et 4 civils, des épouses des militaires. Ces soldats étaient soupçonnés d'avoir abandonné leur position, alors que l'armée congolaise, appuyée par les groupes armés locaux, fait face aux rebelles 23 soutenus par les Rwandais. Ces derniers se sont emparés de plusieurs localités sur la route menant vers la grande ville de Butembo. Comme un symbole, l'audience foraine de ce mercredi s'est tenue à Alimbongo, dans le territoire de Rubero, à quelques kilomètres de la ligne de front, dans une agglomération désertée par ses habitants. Gilles Mveko, avocat de la défense, a indiqué son intention de faire appel de la décision du tribunal, même s'il ne cache pas qu'il y a peu d'espoir que cela aboutisse pour tous les condamnés.
25 sont condamnés à la peine de mort. Nous, en tant qu'avocats, avons vu cela, mais nous trouvons que les faits ne sont pas suffisamment établis à leur égard. Nous supposons qu'avec l'appel, nous pourrons avoir gain de cause pour certains, mais pour d'autres, il n'y a pas d'espoir.
Outre les charges retenues contre eux, certains d'entre eux sont accusés par les populations et la société civile locale d'avoir pillé des biens des villageois. Les autres accusés, dont les 4 femmes, ont été acquittés faute de preuves, a précisé Maître Gilles Mveko, Héritier Baraka, Goma, RFI.
La province du Nord Kivu, donc, où les combats se poursuivent entre l'armée congolaise et ses alliés d'une part, et d'autre part les rebelles du M23, soutenus eux par le Rwanda. Des rebelles qui sont en ce moment à l'offensive. Ils ont pris, par exemple, ces derniers jours, le contrôle de la ville de Kanyabayonga, et ils continuent de progresser vers le nord, en direction de Butembo. Une avancée qui pousse des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants en brousse, des personnes qui fuient les violences et viennent grossir les rangs des déplacés qui se comptent déjà par centaines de milliers dans la région. Bruno Lemarquis est le coordonnateur humanitaire de l'ONU en RDC. Il déplore le manque de moyens pour faire face à une telle situation.
Il y a maintenant à peu près 500 000 de personnes déplacées dans le territoire de Lubero et les pourcentages parlent mieux. Au Nord Kivu, plus de 30% de la population de la province est déplacée, ce qui fait à peu près 2,8 millions de personnes. Au Sud Kivu, où il y a aussi des afflux de déplacés du fait des avancées du M23, il y a plus de 20% de la population du Sud Kivu qui est déplacée. Et dans la province de l'Ituri, donc au nord-est de la République démocratique du Congo, 40% de la population est déplacée. Donc c'est vraiment énorme. De manière plus générale, on a récemment passé, il y a quelques semaines, le cap des 7 millions de personnes déplacées internes en RDC. C'est le deuxième pays au monde pour le nombre de personnes déplacées internes après le Soudan. Donc c'est vraiment un chiffre affolant. Les besoins humanitaires sont en conséquence gigantesques et continuent à chaque fois à s'agrandir. La réponse humanitaire fait ce qu'elle peut, mais il y a vraiment beaucoup de défis auxquels on fait face, des défis d'accès, des défis de sécurité et également, il faut le mentionner, des défis de financement.
Bruno Lemarquis, le coordonnateur humanitaire des Nations Unies en République démocratique du Congo, joint par Alexandra Branjon. Il évoquait à l'instant la province de l'Ituri. On y apprend qu'au moins 4 ressortissants chinois ont été tués hier matin lors de l'attaque d'un site minier non loin de la localité d'Abombi dans le territoire de Djougou, assaut attribué à des membres de la milice Codeco, lors duquel des civils et des militaires congolais ont également été blessés. RFI 6h35. À N'Djamena, au Tchad, la présidence reste sur sa position après la révélation qu'une enquête préliminaire de la justice française visait le chef de l'État tchadien, Mahamat Idriss Déby, soupçonné de détournement de fonds présumés suite à l'achat de près d'un million d'euros de vêtements ces dernières années. Officiellement donc, N'Djamena renvoie à l'autobiographie du président, mais en aparté, certains proches sont un peu plus bavards et au sein de la société civile tchadienne, on souhaite que l'enquête aille à son terme. Esdras Ndikoumana.
La présidence tchadienne s'est contentée encore une fois de reprendre les mêmes éléments de langage, je cite, « Nous espérons que cette enquête établira la vérité et dissipera l'intention de nuire à la réputation du président de la République du Tchad », a répété un de ses conseillers en communication, Armand Djengoltar, avant de nous renvoyer encore une fois à l'autobiographie de Mahamat Idriss Déby dans laquelle il a qualifié cette affaire de symbole de la manipulation politique. Même si la présidence tchadienne se veut plutôt discrète à ce stade, la pilule passe mal dans son entourage immédiat où l'on pointe une cabale contre Mahamat Idriss Déby. C'est pour nous faire payer son voyage en Russie et la visite du chef de la diplomatie russe au Tchad dernièrement et cible l'une de nos sources. Ces politiques, on cherche à l'humilier, cela aura des conséquences sur nos relations, a renchéri un autre responsable en se demandant si la justice française n'avait rien de mieux à faire que de s'occuper des habits de notre chef de l'État. Du côté de la société civile tchadienne, le président de Tournant la page Tchad demande lui que cette enquête de la justice française aille jusqu'au bout. Il faut qu'elle nous dise clairement si c'est Mahamat Déby qui est responsable ou si c'est son entourage, a précisé Jacques Ngarassal.
Des précisions signées Esdras Ndikoumana. N'Djamena, la capitale tchadienne qui est nettoyée à 95%, affirment les autorités, et plusieurs milliers d'engins explosifs ont été récupérés après l'explosion d'un dépôt de munitions il y a 2 semaines. Dans une heure, dans le prochain Journal Afrique, reportage avec une équipe de démineurs. Le problème est résolu, affirme le gouvernement gabonais, et on attend maintenant de voir quelle sera la réaction de la Banque mondiale, cette institution qui a suspendu au début de la semaine ses décaissements en direction du Gabon après que Libreville accumulait plusieurs mois d'impayés de sa dette. Impayé donc que le gouvernement reconnaît mais dit depuis avoir réglé. Explication avec Yves-Laurent Gomain.
L'information a été rendue publique dans une note écrite du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui a fuité ce mercredi sur les réseaux sociaux. Ousmane Diagana, qui avait séjourné début mai au Gabon où il avait rencontré les principaux dirigeants de la transition, dont le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Le texte précise qu'au 30 juin dernier, le Gabon a accumulé des arriérés d'une valeur d'environ 10 milliards de francs CFA, d'où la suspension. Plusieurs projets en cours pourraient être pénalisés. Il s'agit entre autres des projets de modernisation des villes à travers la construction des routes en pavé, la formation des jeunes dans les métiers techniques ou encore le projet e-Gabon qui vise à numériser l'administration gabonaise. Dans un communiqué mercredi soir, le gouvernement a expliqué que le non-versement de ces arriérés est dû à des problèmes techniques. Le ministère des Comptes publics soutient que le Trésor public gabonais a déjà procédé au paiement de ces arriérés. Yves-Laurent Goma, Libreville. RFI.
Dans l'actualité des pays africains ce matin également, le Mali, au moins 21 villageois ont été tués lundi après-midi, bilan provisoire après une attaque attribuée à la Katiba Massina, qui est une unité du groupe djihadiste Jnim. La localité, c'est Djimbombo, un village du centre du Mali, situé à une 20aine de kilomètres de la ville de Bandiagara. Le décès en France de Roland Dumas, à l'âge de 101 ans, avocat et figure de la vie politique française, du temps notamment du président François Mitterrand, dont il a été ministre des Affaires étrangères. Roland Dumas, proche également de l'ancien président gabonais Omar Bongo, et qui a vécu et participé à sa manière à l'histoire du continent. Un portrait bien plus complet est à lire en ce moment sur RFI.fr. Et puis avant de retrouver Arnaud Pontus pour la suite d'RFI Matin, on parle maintenant des élections législatives françaises. Scrutin pour lequel les pays africains sont répartis en 2 circonscriptions, la 9e 19e, à l'ouest d'une ligne entre Le Caire, Niamey et Abidjan. Là, le second tour oppose la candidate du parti présidentiel à celui du Nouveau Front Populaire, Karim Benchek, qui a reçu 51% des suffrages au premier tour, mais avec une participation trop faible pour être élue. Et la 10e circonscription, elle comprend, elle, le Moyen-Orient, les pays d'Afrique centrale et les pays d'Afrique australe, ainsi que le Nigeria, le Togo et le Bénin notamment. Nous vous proposons ce matin d'entendre les deux candidates qui se feront face au deuxième tour, à commencer par celle qui est arrivée en tête avec 32,5% des suffrages, Elsa Dimeo du Nouveau Front Populaire.
Je suis la seule candidate qui est réellement installée hors de France. Je réside depuis plus de 2 ans au Cameroun, après avoir résidé pendant près de 8 ans en Afrique de l'Ouest. J'ai dit clairement que je souhaitais proposer une loi rectificative qui permette d'avoir plus de moyens pour les Français, à la fois dans les aides sociales à l'étranger, à la fois dans le réseau d'éducation français à l'étranger, pour augmenter différents postes de profs au sein du réseau AEFE. J'ai une proposition qui permettra de recréer un sentiment de communauté nationale de nos Français installés sur les 49 pays de la circonscription. J'ai proposé, dès mon élection, de mettre en place une application disponible pour tous nos concitoyens installés hors de France pour faire le lien permanent et régulier avec la députée de proximité que je serai.
Et en face d'elle, il y aura la députée sortante, élue en 2017, Amélia Lacraffi, candidate à sa réélection sous les couleurs de la coalition présidentielle Ensemble et qui a recueilli au premier tour 31,8% des voix.
Ce qui compte le plus pour nos compatriotes, c'est, je pense, l'accès aux services consulaires. Parce que quand on est à 10 000 kilomètres, c'est très compliqué quand on a un souci du quotidien qu'on n'arrive pas à régler. Donc c'est toute cette facilité administrative qu'on a commencé et qu'on va continuer pour simplifier la vie. Le texte de loi pour lequel j'étais responsable de texte il y a un mois aujourd'hui, la dématérialisation de l'état civil, va faire que l'état civil ne prendra plus de temps à nos agents, que nos compatriotes pourront faire en ligne tout leur état civil, donc renouvellement de passeport. Et le temps libéré pour nos agents sera du temps pour l'accueil de nos compatriotes, parce qu'aujourd'hui, les plaintes qui arrivent en masse, c'est « je n'ai pas accès au consulat, je n'ai pas de rendez-vous pour le consulat », que ce soit pour faire un visa à un conjoint ou pour renouveler un passeport. Et ça, c'est très handicapant pour nos compatriotes à l'étranger.
Des propos recueillis par Guillaume Fabry. Et demain, nous vous proposerons d'écouter les deux candidats encore en lice dans l'autre circonscription pour les Français de l'étranger, la 9e, pour ces élections législatives où les concernés peuvent voter sur Internet jusqu'à ce soir avant le vote physique de dimanche. Il est maintenant 5h43 en temps universel et vous êtes avec Arnaud Pontus pour la suite des RFI Matin.